Chapitre 13. Jésus, notre tout. Jésus est d'abord notre rédemption. Sa mort nous a délivrés du péché, si bien que désormais, il ne reste plus aucun sujet de condamnation pour ceux qui sont en lui. Évidemment, le danger de péché existe encore, car notre nature a gardé ses tendances perverses. Mais ces tendances elles-mêmes ne demeurent en nous que pour nous fournir une occasion de victoire et un sujet de mérite. Jésus au calvaire nous a acquis des grâces surabondantes pour les combattre avec succès. Il a vaincu le péché pour que nous puissions le vaincre à notre tour. Si nous adhérons à Jésus, notre rédemption, nous pouvons aller à Dieu vers les sommets de la charité parfaite, non pas en dépit de nos fautes et de nos misères, mais grâce à ses misères mêmes, et même à ses fautes, qui étant désavouées par le repentir et l'humilité, feront éclater la puissance de l'amour miséricordieux et l'efficacité de la grâce rédemptrice. Jésus est notre sanctification également. La vertu qui sort de lui possède un principe de nutrition propre à nous rendre forts et à nous faire grandir en amour de Dieu. Nous sauver de l'enfer, c'est trop peu pour Jésus. Il nous sanctifie, lui, le Saint de Dieu. C'est dans le Christ que Dieu nous a élus pour que nous soyons saints, dit l'Écriture. Nulle sainteté hors de lui. Vous voulez devenir des saints et des saintes, vous voulez cela sincèrement, c'est l'ambition dominante de votre âme, eh bien cette ambition est d'avance réalisée en Jésus. Vous n'avez pas à faire fond sur vos industries personnelles, mais sur sa sainteté à lui. Personne, dit l'apôtre, ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà posé, savoir Jésus-Christ. Tout ce que nous pourrions faire pour notre sanctification serait vain sans notre union à lui. Le plan de Dieu est conçu de telle sorte que tout ce qui descend du Père à nos âmes nous vient de Jésus, et tout ce qui monte de nos âmes au Père doit passer par la même voie. Nous avons besoin de Jésus pour toutes choses, mais surtout pour aimer Dieu et devenir des saints et saintes. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », nous déclara-t-il. « Mais avec lui, en lui et par lui, nous pouvons tout. » Quand je pratique l'humilité, la charité fraternelle, la douceur, la patience, je n'ai pas à m'en attribuer le mérite, car c'est le Christ humble, charitable, doux et patient qui m'a prêté ses sentiments à lui. Par moi-même, je n'ai aucune justice. Il est ma justice. Être juste à l'égard de Dieu, c'est lui rendre ce qui lui appartient, et ne rien s'accaparer de la gloire qui lui est due. Enfin, Jésus est notre sagesse. Il y a deux sagesses opposées l'une à l'autre, celle du monde et celle de Dieu. Le monde se croit sage lorsqu'il choisit et emploie des moyens conformes au but qu'il poursuit. Sage l'homme qui, voulant devenir riche, s'engage en d'habiles spéculations et des commerces lucratifs. Sage celui qui, désirant la gloire, cherche à paraître, à se faire un nom. Mais Dieu a convaincu de folie cette sagesse du monde. Il nous fait comprendre où se trouvent les biens véritables et nous renseigne sur les moyens de les acquérir. Pour être riches en lui et de son amour, nous avons à pratiquer la pauvreté, le détachement intérieur de toutes choses. Pour obtenir la gloire véritable, la gloire éternelle du ciel, nous devons nous abaisser pour nous humilier, car dans son royaume, celui qui veut être le plus grand doit se faire le plus petit, le serviteur de tous. Telle est la sagesse du Christ, renversement absolu de la sagesse du monde. Il la communique à ceux qui s'unissent à lui, qui vivent en lui. Ayez en vous les sentiments qui sont dans le Christ Jésus, nous conseille l'apôtre. Thérèse de Lisieux le remerciait de l'avoir délivré non seulement des fautes commises, mais même des fautes qu'elle aurait pu commettre. Je cite, « Sans lui, disait-elle, j'aurais pu tomber aussi bas que Madeleine. N'ayant jamais commis de péché grave, elle pouvait cependant affirmer, « Jésus m'a plus remis qu'à cette pécheresse. » Jésus était sa sanctification. Elle déclarait, « Je sens toujours la même confiance audacieuse de devenir une grande sainte. Je ne compte pas sur mes mérites, n'en ayant aucun, mais j'espère en celui qui est la vertu, la sainteté même. C'est lui seul qui, se contentant de mes faibles efforts, m'élèvera jusqu'à lui, me couvrira de ses mérites et me fera sainte. Elle avait dit à Jésus, je désire être sainte, mais je sens mon impuissance, et je vous demande d'être vous-même ma sainteté. Sa vie entière est un poème de confiance en Jésus, basé sur le sentiment très vif de sa faiblesse et de son impuissance personnelle. Jésus était sa justice. Ah, comme elle évitait de se prévaloir de ses œuvres, notre Thérèse. Elle les comptait pour rien, elle les méprisait, sans toutefois omettre ce qui dépendait d'elle. Il faut faire tout ce qui est en soi, disait-elle, donner sans compter, se renoncer constamment, en un mot, prouver son amour, par toutes les bonnes œuvres en son pouvoir. Mais à la vérité, comme tout cela est peu de chose, il est urgent de mettre sa confiance en celui qui seul sanctifie les œuvres. Au soir de cette vie, disait-elle encore, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices ont des taches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. Je ne veux point d'autre trône et d'autre couronne que vous, mon bien-aimé. Jésus était sa sagesse. C'est en le regardant, en l'écoutant, en l'aimant, qu'elle en vint à penser et à juger comme lui, à régler toute sa conduite sur la sienne. Le Saint-Évangile était son trésor. Elle y puisa la lumière directrice de sa vie. À savoir que la vraie grandeur se trouve dans la petitesse et l'humilité, suprême sagesse qui est en même temps la clé de la science. Le christianisme réside essentiellement dans le Christ. Il est moins une doctrine que sa personne. C'est Maurice Zundel qui a dit ça. Le service d'amour, ce n'est pas quelque chose, mais quelqu'un. Ce n'est pas tant une morale à pratiquer qu'une personne à aimer, qu'un Jésus à vivre. La sainteté est à base d'amour, et l'amour, pour aller jusqu'à l'héroïsme, doit s'adresser à un être personnel et vivant. Jésus est le don de Dieu à nos âmes, don absolument gratuit. Par la grâce, Jésus est notre propriété inaliénable. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, nous appartient. Ses perfections, ses états, ses mystères, ses mérites sont à nous. Tous les biens terrestres peuvent nous être ravis par la maladie, par des revers de fortune, par les voleurs, enfin par la mort. Jésus, lui, ne nous sera jamais ôté, à moins que nous ne voulions délibérément le perdre par un péché grave. Ce don de Dieu est sans repentance. Tout le progrès spirituel tient à l'art d'utiliser Jésus, et en l'utilisant, de le posséder davantage. Nous ne croyons pas ce rôle indigne de lui. N'a-t-il pas déclaré dans l'Évangile « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir » Saint Bernard a exprimé cette délicieuse vérité avec une confiante audace. « Vous êtes tout à moi, ô mon Jésus, tout livré à mon usage. » S'il nous fallait remonter 20 siècles en arrière pour trouver l'objet de notre amour, que nous serions malheureux. Mais le Jésus que nous devons utiliser n'est pas un personnage historique. Il vit actuellement parmi nous. Bien des vies spirituelles s'anémient et végètent parce qu'elles s'alimentent d'une sève trop pauvre, puisée en de petites dévotions secondaires, alors qu'elles devraient faire passer au premier plan la Sainte Eucharistie qui nous donne non seulement les grâces du Christ, mais le Christ en personne. Pour vous aimer comme vous m'aimez, disait sainte Thérèse, il me faut emprunter votre propre cœur, ô Jésus. Alors seulement je trouve le repos. Une âme me disait un jour, je ne suis jamais satisfaite de moi-même, car je fais 1000 sottises et je tombe souvent sur le chemin de l'amour, en dépit de ma bonne volonté. Mais je ne suis jamais triste ni malheureuse. Quand il me semble que ma contrition elle-même n'est pas suffisante, je songe à celle que mon Jésus a éprouvée à Gethsémani, où il l'a vu, hélas, mes péchés, et ceux de tous les hommes. J'offre au Père cette contrition parfaite qui a fait suer du sang à son Fils, et j'ai l'impression que mes fautes sont à jamais anéanties dans l'abîme de la divine miséricorde. Il m'arrive aussi de ne pas pouvoir faire à mon gré certaines pratiques de pénitence qu'on ne me permet pas. J'en gémis dès l'abord, puis je me ressaisis, et je m'arrange pour que Dieu n'y perde rien, en lui offrant les souffrances expiatrices de Jésus à la place des miennes. Et c'est ainsi pour tout le reste. Vraiment, je suis bien chanceuse d'avoir un Jésus à ma disposition, et je l'exploite de mon mieux. Au lieu d'imposer à ses convertis des disciplines détaillées et minutieuses, le grand apôtre ne cesse de leur répéter « Vivez du Christ, unissez-vous au Christ, revêtez-vous de lui, ayez en vous ses sentiments, etc. » Et si nous sommes parfois accablés sous le poids de nos misères, de nos épreuves, prêts à défaillir et à laisser tomber les armes, entendons l'appel que Jésus nous adresse. « Viens à moi, pauvre âme fatiguée, je te referai. » Allons à lui, mettons-nous en contact avec le brasier ardent de son cœur, et son amour nous refera. Après nous avoir fortifiés, il nous détachera de nous-mêmes et de toutes les choses créées. Il nous transformera en lui. Prière. La vie chrétienne, c'est votre vie en moi, ô Jésus, et ma vie en vous. C'est la rencontre des deux amours, votre amour provoquant et sollicitant le mien. Il ne s'agit plus de traîner un lourd fardeau d'obligations, ni de me contraindre par rigueur à une succession de devoirs ennuyeux, monotones, pénibles. Il s'agit simplement de vivre uni à vous, mon Christ adoré, et de trouver dans cette union la paix, la joie, la force du renoncement, toutes les grâces qui font les saints. L'amour sera l'unique mobile de mes activités. Je mettrai de l'amour partout et en tout. Prier, travailler, me reposer, rendre service, prendre mes repas et mes distractions nécessaires, faire de l'apostolat, pratiquer la mortification, la patience, la douceur, tout cela deviendra pour moi faire de l'amour. Car on ne monte jamais seul vers vous. L'unité de votre corps mystique entraîne une solidarité imbrisable entre les membres qui le composent. Si donc votre amour me purifie, m'embrase et inspire toute ma conduite, votre Sainte Église en ressentira les effets bienfaisants. Encore une fois, mon Jésus, faites donc que je vous aime ardemment, passionnément, comme les saints. Cette prière, elle ne vient pas de moi. C'est l'Esprit divin, votre Esprit, qui la formule en moi par des gémissements ineffables. Si je vous aime, c'en sera fini de mes lâchetés à votre service. L'amour me portera à des sacrifices cachés que personne ne saura, mais que vous connaîtrez, vous, mon Jésus, et que vous paierez par un surcroît d'amour. Alors le joug de la vie chrétienne se changera pour moi en deux ailes qui me soulèveront vers les cimes. Je pourrai m'écrier à l'instar de votre petite Thérèse que le Seigneur me rend heureuse, qu'il est doux et facile de le servir. Amen.